Bonjour Vincent Hugeux.
Bonjour.
Je vais vous présenter en quelques mots. Vous êtes un grand reporter reconnu comme l'un des meilleurs spécialistes de l'Afrique. Après avoir travaillé au Monde et à la Croix, je crois 6 ans entre 84 et 90 à la Croix, vous avez rejoint le service Monde de l'Express, où vous avez couvert l'Afrique et d'autres scènes internationales pendant 30 ans, de 1990 à 2020. Vous êtes depuis 2020, comme on dit, journaliste indépendant et auteur d'ouvrages, tous ayant pour toile de fond le continent africain, avec une exception, puisque j'ai noté dans votre bibliographie un livre intitulé « Iran, état d'alerte », publié en 2010, et quelle évidence Donald Trump n'a pas lu. Pour ce qui concerne vos ouvrages africains, entre guillemets, je signale entre autres 2017 une biographie considérée comme référente de Kadhafi, et puis un original ouvrage consacré aux premières dames africaines, intitulé « Reine d'Afrique » au pluriel, en 2014. Donc ouvrage édité chez Perrin, comme celui dont nous allons parler maintenant, que je montre à la caméra, « Les fers et le fouet, une histoire raisonnée de l'esclavage ». Alors, dès la première page de votre livre, vous partagez avec le lecteur votre intention. Je vous cite « Déjouer, si possible, les courants manichéens, les récifs de l'essentialisme et le poteau noir de l'amnésie ». Fin de citation. Et avec très vite une question que vous posez, je la cite, et vous allez y répondre, je pense, à cette question que vous posez vous-même, mais je vais y associer une autre. La question que vous posez, c'est « Peut-on porter sur l'esclavage un regard dépassionné ?» Et ma question à moi, c'est comment est-ce que vous avez procédé pour y parvenir ?
Alors, merci beaucoup et je remercie le public d'avoir résisté à la tentation de ce soleil estival pour nous rejoindre ici. C'est en tout cas, en quelque sorte, le mandat que je m'étais assigné. Quand on travaille sur le continent africain, qu'on a le privilège de le sillonner pendant plusieurs dizaines d'années, mais aussi Moyen-Orient, monde arabo-musulman, etc., l'esclavage flotte en permanence comme un spectre. C'est-à-dire qu'il y a ici une allusion, là, une petite agression verbale. « À toi, j'oublie pas que tes parents ont vendu des esclaves ». Non. Alors ça peut être ce qu'on appelle en Afrique le cousinage de la plaisanterie, ça peut être juste une allusion un peu ironique qui a autant vocation à désamorcer un contentieux qu'à l'alimenter. Il y a des lieux, évidemment. Je suis allé au Bénin, à Ouida, j'étais allé évidemment à Gorée, au Sénégal, mais également au Ghana, au Nigeria, etc. Et donc, à un moment donné, on se dit, mais au fond, ce fléau millénaire, et dont je considère qu'hélas, il ne périra qu'avec notre pauvre monde, il flotte partout, mais je dois encore, moi, clarifier ma posture par rapport à ce phénomène, et puis surtout combler des lacunes. Bon. Et donc, pour en venir à l'essence de la question, quand on s'empare d'un sujet aussi vaste que celui-là, oui, j'ai la conviction qu'on peut l'aborder d'une manière dépassionnée, comme je le dis à un autre endroit, mon seul parti pris est de ne pas en avoir, et c'est une obsession qui m'a guidé également dans ma carrière de journaliste, c'est-à-dire regarder l'histoire en face, y compris dans ses aspects, ses facettes les plus sinistres, les plus lugubres. Et donc c'est pour ça que, conscient des limites de mon savoir en la matière, ben, je me suis tourné vers ce que l'historiographie contemporaine a produit de mieux. Et donc, ça veut dire que j'ai lu des dizaines d'ouvrages qui émanent d'historiens français, africains, britanniques, américains. J'ai assisté à des colloques. J'ai évidemment suscité des rencontres auprès d'experts plus compétents que moi, que je cite d'ailleurs dans l'ouvrage. Et puis, pour avancer encore sur cette voie, nous étions avec Benoît Hiver, le patron des éditions Perrin, parti d'un constat assez imparable, qui consiste à dire qu'il existe une littérature incroyablement abondante sur les mémoires de l'esclavage, les abolitions, la question des réparations, la question de l'enseignement et tout. Mais en fait, il y a deux pôles qui, en fait, happent l'essentiel de cette production éditoriale. Il y a d'une part des ouvrages extrêmement pointus, très académiques, mais il faut le dire, un peu abscon pour l'honnête homme ou l'honnête femme du 21e siècle.
Plutôt universitaire.
Oui, oui. Alors, ça peut être passionnant et ça peut être pour moi une source d'ailleurs utile. Mais c'est quand même un type d'ouvrage qui s'adresse aux initiés. Un peu. Bon. Et puis de l'autre côté du spectre, il y a énormément d'essais militants, quel que soit d'ailleurs le parti pris des auteurs, mais qui font assez souvent litière de la rigueur historique, justement. Et le mandat, le défi que me proposait Benoît Hivert, c'était évidemment de réussir à produire quelque chose qui soit historiquement rigoureux, mais lisible, pour, encore une fois, le curieux, la curieuse d'aujourd'hui. Et donc, la méthodologie, elle était la suivante. Donc, d'abord, combler les immenses lacunes qui étaient les miennes, en me tournant vers ceux qui savent. Et puis ensuite, identifier une douzaine de stéréotypes très tenaces autour de l'histoire et de la mémoire de l'esclavage. Dès que vous abordez ce sujet, vous avez comme ça, qui émergent en surface, des raccourcis, des convictions, des certitudes, des interrogations et tout. Et donc j'ai choisi donc une douzaine de thématiques. Alors ça commence par ce que j'appelle les mots pour le dire et les mots dire, c'est-à-dire le lexique, le vocabulaire, on va y revenir, et donc jusque l'esclavage moderne, puisque on y reviendra peut-être. Aujourd'hui, on considère qu'il y a 50 millions de nos congénères qui sont en état de servitude.
Majoritairement des femmes, d'ailleurs.
Oui.
J'ai noté page 25, donc cette réflexion qui nous met tout de suite dans le premier chapitre, hein, donc, avec un beau titre, hein, autour des sur les mots pour le dire et le mot dire. Hein, bonjour le jeu de mots, tout à fait justifié. Voilà ce que vous dites. Serait-ce la sécheresse tout juridique ou le caractère alambiqué de leur formulation, les définitions conventionnelles de l'esclavage ne reflètent que médiocrement l'épaisseur humaine de l'épreuve infligée à ses victimes. C'est une phrase qui est tout à fait pertinente, je pense, parce que elle réinscrit en quelque sorte une incarnation dans les victimes. Et ça, là où il y a énormément de statistiques, là, on retrouve la dimension, je dirais presque, de l'individualisme méthodologique. Alors, ce passage ouvre un paragraphe intitulé « La traque, la troque, la trique ». Trilogie que vous qualifiez, page 27, de « cinglante », et dont vous dites que des millions de captifs ont subi le sort. Alors, expliquez-nous pourquoi vous avez repris cette phrase de la grande historienne et africaniste Catherine Cochry-Vidrovitch, que vous citez à plusieurs reprises. Oui. Elle écrit, on voit la paraphrase, « On ne naît pas esclave, on le devient ».
Oui, oui. En référence, évidemment, à la fameuse formule, à l'aphorisme de Simone de Beauvoir. Alors d'abord, sur les chiffres, c'est vrai que le second chapitre s'appelle « Des chiffres et des êtres », parce que j'essaye quand même, autant que faire se peut, de vider la querelle statistique, qui finit par...
Je compte qu'on en parle. Hein,
oui, oui, bien sûr, mais qui finit par parasiter ce que j'appelle, moi, l'épaisseur humaine que vous mentionniez à l'instant, Jean. Ce qui est très frappant, c'est que lorsqu'on se plonge dans des études... si sérieuse soit-elle, on en vient à échanger non seulement des affectives, mais aussi des statistiques. Il y a un moment où je cite un ministre de la culture de Georges Pompidou, qui s'appelait Jacques Duhamel, et qui avait cette formule que je trouve magnifique, qui est parfaitement en phase avec notre réflexion ici. S'il est vrai que les chiffres ne mentent pas, il arrive que les menteurs chiffrent. Et donc, il y a parfois, on le sent, et là, je suis plutôt dans la catégorie de ces ouvrages à thèse. Il y a parfois une sorte de manipulation de la statistique qui fait oublier l'épaisseur humaine. Et moi, vous savez, de par ma formation et de par l'expérience, le privilège que j'ai eu de sillonner le monde depuis plus de 35 ans maintenant, je suis un universaliste impénitent et incurable. Mais ce n'est pas ce que le grand philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne appelle l'universalisme de surplomb, celui que l'on octroie. Bon, c'est vraiment un universalisme total. Et donc, je voulais que cette épaisseur humaine soit là. C'est pour ça aussi qu'on y reviendra sans doute. Je consacre des longs passages à ce qu'on appelle l'agentivité, c'est-à-dire la volonté, même dans l'adversité extrême, de peser sur son propre destin. Ce qui est une réalité qui a été très longtemps sous-estimée, par les historiens, mais aussi par les cinéastes et les écrivains. Et c'est pas totalement un hasard si, justement, dans l'esprit de la question abordée ici, j'ai choisi pour exergue, plutôt que d'aller chercher une citation, si percutante soit-elle, ceci. À l'esclave inconnu dont nulle archive n'a gardé trace, qu'il ait péri dans un recoin de cale au détour d'un désert brûlant, à la tâche ou sous les coups. C'est de ces gens-là que j'avais envie de parler.
Alors, sur la phrase de Catherine Cochry-Vidrovitch, on ne naît pas esclave, on le devient. Alors, c'est j'allais dire presque le fil rouge de tout le livre, parce que vous montrez combien. Un moment, on y reviendra. Vous dites le roi clé africain ne vendait pas des noirs à des blancs. Il vendait des adversaires, des ennemis, etc.
Des captifs.
Des captifs. Mmh. Voilà. Bon. Parce qu'effectivement, il y a toujours, il y a très souvent une transposition essentialiste de la situation. Expliquez-nous le bien fondé de cette phrase de Catherine Cochry.
Bah, l'essentialisme, enfin je le dis d'emblée, voilà l'ennemi. Hein, ouais. Pour moi, dans ces matières comme dans toutes les autres. C'est-à-dire réduire l'individu à son assignation identitaire, son origine, la couleur de sa peau, la langue qu'il pratique ou le passeport qu'il détient. Pour moi, c'est vraiment le péril qui nous menace tous, singulièrement dans cette période tumultueuse. Ce que dit Catherine Vidrovitch, ça renvoie à une autre évidence qui a été longtemps contestée par certains, c'est que, en fait, l'esclavage précède la race. C'est-à-dire que le phénomène de la réduction en servitude de l'ennemi, de l'inférieur, précède de beaucoup, et y compris dans l'Antiquité, la conceptualisation des notions de race et la théorisation des races, dont on sait qu'elles sont ces approches très, très contestées aujourd'hui. Donc, effectivement, on peut appartenir à une caste dite inférieure. On peut être un fils, une fille d'esclave et avoir d'infinies difficultés à sortir d'une sorte de fatum, de sort invincible. Mais c'est selon les aléas de l'histoire. Et vous aviez mille fois raison d'évoquer cet aspect qui est très méconnu. C'est qu'effectivement, lorsque vous avez un hebdomadaire aussi nuancé que Valeurs Actuelles qui prétend, après avoir fait apparaître une députée dans une série d'été assez peu inspirée, vêtue d'un collier de chien.
C'est Madame
Obono, la députée LFI. Mmh. La thèse de ce récit, c'était qu'il y aurait une occultation, une volonté de nier, par une sorte de révisionnisme instantané, le fait qu'il y a eu, une traite intra-africaine, une traite transsaharienne. Et donc, vous trouvez très vite piégé. Il y a un phénomène qui est très drôle. Quand j'ai commencé à discuter avec des amis, des proches du projet dans lequel je m'engageais, je peux vous dire que statistiquement, dans 4 cas sur 5, il y avait une question qui jaillissait instantanément. Mais est-ce que tu vas aussi parler de la traite arabo-musulmane? Est-ce que tu vas aussi parler... Comme s'il y avait une suspicion ontologique de volonté d'occulter, d'effacer, de nier, etc. Or, cette thèse est absurde. Moi, j'ai sur mon bureau une bonne dizaine d'ouvrages qui soient consacrés par des historiens africains ou occidentaux sur la traite intra-africaine. Et lorsqu'il y a eu, on en parlera peut-être plus tard, lorsqu'il y a eu une séquence un peu de pardon, de demande de pardon, j'ai identifié 6 chefs d'État africains qui eux-mêmes demandaient pardon à leur communauté pour les méfaits de leurs ancêtres qui, effectivement, pactisaient avec les négriers et venaient acheminer donc les captifs dont vous parliez, les prisonniers, les inférieurs, jusqu'au fort de traite de l'actuel Ghana, qu'on appelait la Côte de l'Or, la Gold Coast à l'époque, du Bénin, du Sénégal, etc. Donc c'est la phrase de Catherine Cochry-Vidrovitch, c'est une sorte de petite loupiote qui clignote en permanence pour dire, justement, attention à toutes les tentations de l'essentialisme.
Alors, il y a un autre phénomène. Vous citiez évidemment Jacques Duhamel. Vous dites, dans une formule très signifiante, jauger, c'est juger. Parce que, évidemment, on rentre, et ça, c'est le deuxième chapitre, on rentre dans une imposition à comptabiliser. Ne serait-ce que pour dire, regardez, vous parliez de la traite arabo-musulmane, ah ben c'était pire. Hein. Voilà. Sauf que, évidemment, on va y venir tout de suite, dans ces cas-là, on n'est pas du tout sur la même échelle de temps. Hein, par exemple.
Absolument.
Donc la statistique, évidemment, elle mérite d'être considérée. Alors, les chiffres, ils sont vertigineux,
oui.
D'une incroyable imprécision. On dirait presque le déficit budgétaire de la France. Enfin, ça ne veut plus rien dire. En termes de milliards, ça ne parle plus. Alors, on n'est pas sur des milliards. Mais vous dites, toute traite confondue, un chiffre sur lequel, dites-vous, s'accordent les chercheurs les plus opiniâtres, 20 à 25 millions d'Africains réduits au fil de l'histoire en esclavage. Un historien américain, Pierre Larson, parle, lui, d'au moins 50 millions d'esclaves. Alors, vous dites qu'il subsiste une certitude. Et ça, je crois que c'est très important d'avoir ces éléments-là. Pour ça, je me permets de vous citer. 12 à 13 millions d'Africains ont été déportés à bord de navires négriers en moins de 4 siècles.
Exactement.
Du 15e au 19e, tandis que 9 à 12 millions de captifs empruntaient contraints et forcés les routes transsahariennes sur une période de 12 ou 13 siècles. Certains historiens rajoutent à cela la zone géographique de l'océan Indien et du Moyen-Orient, et on parle à ce moment-là de 17 millions d'esclaves. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est l'échelle temps qui n'est pas du tout la même. On est quasiment, pardon, mais c'est d'ailleurs assez, on est obligé de le faire, à l'équilibre, entre guillemets, en termes d'individus, de nombre, 12 à 13 millions. D'un côté, c'est sur 13 siècles, de l'autre côté, c'est sur 4 siècles. Donc, on voit bien comment le facteur temps a complètement changé les choses. Et je retiens, moi, parce que je trouve que c'est presque plus parlant, vous dites, pour chaque Européen ayant migré vers les Amériques entre 1501 et 1820, donc sur 320 ans, 4 fils ou filles d'Afrique y ont été exilés. Voilà. Cap sur le Nouveau Monde, dites-vous, promesse pour les uns, calvaire pour les autres. Alors, comment sortir de la bataille des chiffres si tant est qu'il faille en
sortir ? Alors, je vous avoue que c'est sans doute le chapitre qui m'a coûté le plus d'efforts et d'énergie, parce que j'ai brassé un nombre incalculable de documents pour essayer de discerner ceux qui étaient les plus fiables, qui étaient adossés aux recherches les plus rigoureuses, et j'ai essayé de dégager une sorte de consensus, je dirais, scientifique. Bon, et en l'occurrence, sur les 12 à 13 millions, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de débats.
D'accord.
Pour une raison aussi qui est très simple.
Sur les 12 à 13 millions de la traite transatlantique.
Transatlantique.
Oui,
parce que précisément, cette traite transatlantique a laissé dans son sillage beaucoup plus d'archives,
d'accord,
et de documents que la traite transsaharienne et, a fortiori, la traite intra-africaine. C'est-à-dire que il est assez marquant, lorsqu'on visite un musée, par exemple, ça peut être le musée d'Aquitaine, ça peut être Nantes, etc., de voir à quel point les colons et négriers consignaient avec, je dirais, une sorte de soin maniaque leurs achats, le nombre, la santé, et puis il y avait aussi des notaires, il y avait des banquiers, il y avait des financiers. Donc il y a une profusion d'archives qui permet de resserrer la focale, ce qui n'est pas le cas pour les autres traites. Mais c'est vrai que moi, je m'en suis tenu à un postulat assez simple et qui me semble imparable. Comparons ce qui est comparable. Et méfions-nous aussi dans cette guérilla permanente des chiffres, donc de la déshumanisation qu'on évoquait tout à l'heure, mais pas seulement ça. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène que connaissent bien les anglo-saxons, on appelle ça le « whataboutism », c'est-à-dire « what about », et ça. C'est-à-dire que dès que vous parlez de la traite transatlantique, on vous envoie à la figure « oui, mais pendant ce temps-là, les autres, ce que vous disiez, ont fait pire ». Ont-ils fait pire ou pas, je ne peux pas en juger. Mais ce que je sais, en revanche, c'est que beaucoup de ces argumentaires-là, en fait, ont une vocation véritable qui est celle de minorer ou d'euphémiser la traite transatlantique pour, en quelque sorte, se débarrasser du fardeau d'une culpabilité qu'on n'assume pas. Donc c'est pour ça qu'il fallait de toute façon que je passe par sous les fourches codines de ce chapitre-là pour, en encore, moi-même tirer au clair ce qui a été parasité par des présupposés idéologiques.
Alors, ce qui est tout à fait aussi passionnant, c'est que vous montrez que on peut avoir tendance à avoir une vision, j'allais dire, globale de l'Occident ou de l'Europe dans la, et des États européens dans la traite transatlantique. En réalité, vous dites, entre puissances coloniales, mais je parle avant le colonialisme de la conférence de Berlin de 1795, entre grands États coloniaux, c'est d'abord le Portugal et l'Espagne qui mais sont, oui. qui sont oui, en, oui. En pointe, si je puis dire. L'Angleterre, le Royaume-Uni et la France arrivent, et les Provinces-Unies arrivent plutôt ensuite. Et en revanche, ce qu'on trouve, c'est un trio britannique, vous dites, Liverpool, oui. Londres, Bristol, mmh. qui devance largement un quintet français composé dans l'ordre de Nantes, La Rochelle, Bordeaux, Saint-Malo et Le Havre.
Et Le Havre, ah, voilà.
Est-ce que, parce que ça rejoint un autre débat sur les conséquences oui. de la traite. Il y a un vrai débat, certains disent, mais c'est la traite qui a permis au Royaume-Uni de se développer, à la France aussi. Et d'autres disent, mais non, regardez, le Portugal et l'Espagne sont restés en rade, pardon pour le mauvais jeu de mots.
Oui, mais pas si simple, sinon ce ne serait pas drôle. Effectivement, il y a une vision, parfois une perception un peu mécaniste, un peu oui. systémique, qui voudrait tirer des conséquences implacables et quasiment mathématiques oui. De cette histoire. Et au passage, et je reviens tout de suite au cœur de la question, mais ce que l'on découvre dans les recherches récentes, c'est que la géopolitique, qui est très à la mode maintenant, et pour d'assez bonnes raisons, elle a souvent présidé à des choix qui n'étaient ni philosophiques ni idéologiques, mais qui étaient des questions d'influence et de rivalité, par exemple entre la France, l'Espagne, l'Angleterre. Quand vous regardez l'histoire, par exemple, des îles, des Antilles, beaucoup s'expliquent par la volonté, bien sûr, d'avoir du sucre à vil prix, bien sûr de faire venir du cacao, des épices et du café, mais aussi, surtout, de maintenir ou d'amplifier son magistère d'influence sur une zone donnée. Donc mmh. ça, c'est vraiment un phénomène qu'il faut avoir en permanence à l'esprit. De même que, quand on évoque le rapport ambivalent de Napoléon, hein, qui a quand même rétabli l'esclavage dans certaines îles caribéennes, par exemple, eh bien, on s'aperçoit que là aussi, son calcul était moins dicté par une sorte d'attachement ontologique à l'institution esclavagiste, contrairement à ce qui a pu être dit et écrit parfois, que par, encore une fois, la volonté de restaurer le prestige un peu affaibli de la France. Donc, je vais essayer d'en revenir à la question.
Oui, la question, c'est sur les différences entre les États oui. européens.
Oui, alors ça, c'est ça aussi, c'est formidable parce que là aussi, on est franchement abreuvé d'archives. Dans le leadership incontestable qu'avaient précisément le Portugal et l'Espagne, vous aviez une sorte de résonance religieuse, puisque quand on regarde les bulles papales qui, en fait, apportaient un socle de justification théologique à l'entreprise esclavagiste hein, et à la réduction en servitude d'êtres inférieurs dont on se demandait s'ils avaient une âme, s'ils étaient dignes d'être sauvés.
Ça, c'est la controverse
de Valladolid. Voilà, s'ils pouvaient l'être par la conversion, etc. etc. Eh bien, effectivement, donc ce sont ces pays-là qui, en quelque sorte, sont les premiers de cordée, pour prendre une expression qui n'est plus vraiment neutre à la mode. Et donc, on pourrait se dire bon, ben, si ce sont eux qui ont tenu le haut du pavé pendant tant d'années, mécaniquement, ils auraient dû être les puissances qui auraient été propulsées vers la félicité économique et la prospérité. Et en fait, non. Alors, quand on veut réduire, par exemple, l'essor de la révolution industrielle de l'Angleterre aux seuls arriérés et aux seuls bénéfices de l'esclavage, là, on se heurte au mur du réel. Ça n'est pas si simple. Parce qu'en réalité, encore une fois, il serait absurde de nier que cette entreprise esclavagiste, elle avait aussi vocation, encore une fois, à se procurer des denrées de base, ou pas d'ailleurs à vil prix, mais elle ne suffisait pas à expliquer l'essor. Il y avait des éléments, je dirais, intrinsèques à la société anglaise, par exemple, qui expliquait cet essor. Donc là aussi, on est toujours exposé au risque de se trouver piégé dans une sorte de logique, de dire « choisis ton camp ». Mais non, il n'y a pas de camp, il n'y a que le camp de la vérité historique, quand on peut l'approcher, en tout cas.
Dans le statut de l'esclave, vous Vous remontez même à l'Antiquité gréco-latine en faisant référence à Aristote. Oui. Hein, et vous parlez même de... vous dites chez Aristote, affleure ici l'idée de prédestination, voire de fatum.
Absolument. Hein.
Expliquez-nous ça, parce que Paulin Ismar, que vous citez à plusieurs reprises, développe bien cette idée.
Oui, oui, c'est-à-dire que il faut toujours revenir au texte. Hein. C'est comme quand on travaille sur Poutine ou Trump. Enfin, avec Trump, on a vite fait, parce que des textes, il n'y en a pas beaucoup.
Encore qu'il y a une production des néocons, comme on dit, qui mérite d'être lue. La revue Le Grand Continent le fait intelligemment.
Ils écrivent pour lui. Le temps de cerveau disponible entre le golf la salle kitschissime de Bâle de la Maison Blanche. Donc revenons à nos moutons.
Et Aristote.
Oui, quand on retourne au texte, on s'aperçoit effectivement que dans l'Antiquité, mais d'ailleurs dans l'Antiquité grecque comme romaine, il y a cette idée qu'il y aurait des peuples qui seraient, encore une fois, par nature, ontologiquement, destinés à la servitude. Alors ça peut prendre parfois une tournure physiologique, sur des caractéristiques du faciès, du corps, de la robustesse, de la couleur de peau, etc.
Pardon, ça durait longtemps, parce que vous faites état d'une espèce de catalogue, on dirait presque le salon des arts ménagers, un auteur au 19e siècle, qui dit, ou 18e, prenez une nubienne pour la qualité de son lait.
Voilà.
Les femmes de telle partie de l'Afrique sont plus gentilles avec les enfants. Prenez un gros costaud du côté de l'Afrique de l'Est, etc. Il y a un guide.
Absolument. Et il y avait une revue qui s'adressait essentiellement au cercle anti-abolitionniste aux États-Unis, 18e, début 19e, qui, comme ça, offrait à ses abonnés un vademécum, le kit du parfait négrier. Alors, sur des caractéristiques, encore une fois, très primaires, pour le coup, relatives, donc, encore une fois, à la région d'origine, à la couleur de peau, à la constitution physique, à la dentition.
Mais méfiez-vous des teints clairs, disent-ils, ils sont plus dangereux que les autres.
Notamment parce qu'ils peuvent se fondre dans la société, donc méfiez-vous. Donc il y a tout à fait cette idée, et on a effectivement chez Aristote et chez des auteurs aujourd'hui vénérés, cette idée, alors pour le coup, qui est de l'essentialisme pur jus, en disant qu'il y a, alors non seulement des peuplades, pour reprendre un lexique d'époque, qui sont prédestinées à la servitude, mais qui n'ont pas la possibilité de sortir de leurs conditions. C'est-à-dire qu'ils seraient, ad vitam aeternam, et de génération en génération, destinés à être, soyons clairs, des êtres inférieurs. C'est du suprémacisme.
Mais
dans une version antique, mais c'est du suprémacisme.
Pour quelles raisons les affranchit-on, certains ?
Alors, on peut affranchir pour de bonnes et de mauvaises raisons. Ouais. On peut affranchir un esclave ou une esclave dont on se dit que c'est la meilleure manière de ne pas entretenir une conflictualité, un ressentiment, une rancœur qui pourrait ensuite se traduire par de la révolte et ce qu'on appelle le marronnage, par exemple, en Haïti, c'est-à-dire la constitution de maquis par des esclaves qui s'évadent. On peut aussi affranchir parce que, à partir du moment où vous avez des intellectuels en Europe, en Angleterre par exemple, avec les Quakers notamment, qui est une communauté religieuse qui a joué un grand rôle dans le combat contre la traite et l'esclavage, mais les philosophes des Lumières, quelles que soient les ambivalences que j'évoque d'ailleurs dans un autre chapitre, il y a une pression aussi, je dirais presque de nature politique, qui fait que peut-être alléger le fardeau de sa propre culpabilité et donner l'impression qu'on est dans le vent du modernisme, on va affranchir une partie.
D'accord.
Mais attention, les affranchissements sont souvent eux-mêmes très, très ambigus. Parce que vous pouvez affranchir un esclave et lui imposer un statut intermédiaire qui fait qu'il ne pourra jouir de sa liberté très relative qu'après un certain nombre d'années qui sont dues à son propriétaire. Donc là aussi, il y a toute une gamme dans les affranchissements. Il y a très peu d'affranchissements chimiquement purs. Et d'ailleurs, ce qu'on observe, je ne sais pas si vous avez, certains d'entre vous ont vu un film qui est sorti récemment, qui s'appelle « Furci libre », on s'aperçoit que certains des esclaves qui avaient été affranchis ont dû porter leur combat devant les tribunaux, ce qui était un pari franchement audacieux à l'époque, pour faire valider un affranchissement qui pourtant était, juridiquement parlant, impeccable. Parce que, encore une fois, il y avait des statuts intermédiaires qui permettait, tout en affranchissant formellement, de maintenir un véritable état de sujétion et de servitude.
Alors, toujours dans cette dimension que l'on peut qualifier presque d'assignation à esclavage, vous évoquez la persistance d'un racisme anti-noir dans les pays du Maghreb. Alors, on sait, par exemple, au Maroc, ce qui est la situation de communautés qui sont issues, justement, de la traite, encore aujourd'hui, mais... En particulier, vous évoquez un poème encore appris par les écoliers d'aujourd'hui du plus grand poète considéré comme le plus grand poète arabe, byzant et arabe de tous les temps, Al-Mutanabbi, 915-965, qui dit « N'achète jamais d'esclaves sans le bâton qui l'accompagne ». Et vous qui connaissez bien l'Afrique noire, vous dites « Dans la société tunisienne, sorte de vœu qui persiste, que Dieu ne noircisse pas nos matrices et celles de nos filles. » Et donc là, il y a réellement, encore est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, dans la géopolitique africaine, par exemple, ces relations sont dans la tension, toujours.
On évoquait la Tunisie à l'instant. Reprenons les déclarations du président Kais Saied ces dernières années. C'est, au sens strict du terme, de la négrophobie. C'est-à-dire, c'est la répulsion, la haine du noir de peau qu'il institutionnalise ensuite, mais qui évidemment va plonger ses racines dans cette sorte de savoir ancestral de ces petites comptines qui sont loin d'être anodines, dont vous venez de citer un exemple. Mais vous savez, c'est là où on voit que la haine n'est pas qu'une question de couleur. À l'Express, je me souviens avoir couvert pendant un certain temps des émeutes au sein des townships sud-africains, donc une sorte de semi-bidonville urbanisé, etc. Eh bien, les affrontements les plus violents opposaient des Sud-Africains noirs à des Zimbabwéens, à des Zambiens, à des Tanzaniens. Pourquoi ? Parce qu'ils viennent piquer nos jobs. Mais c'est vrai qu'il y a un fond, effectivement, d'hostilité aux Noirs. Al-Soudan, le Noir, pour beaucoup de familles aristocratiques du Maghreb, on revient à l'essentialisme aristotélicien, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont des inférieurs. Ils sont là pour servir. Bon. Et quand vous regardez, là encore, l'évolution, je dirais, chromatique de pays comme le Brésil, Haïti, etc., au Brésil, qui est un pays qui ne va abolir l'esclavage qu'à la fin du 19e siècle, en 1888, eh bien, il y a une sorte de classification sociale qui est indexée quasiment sur la couleur de peau. Plus la peau est claire, plus on appartient à une élite. Plus la peau est sombre, plus on est voué aux travaux âpres et ingrats et au service de l'autre. Et ça, c'est des phénomènes alors, qui peuvent être non-dits, qui peuvent être tabous, mais que j'ai touché du doigt dans des dizaines de reportages.
Alors, vous l'aviez évoqué un moment tout à l'heure, à propos, entre autres, des bulles papales. Ce qui est tout à fait frappant, vous dites que vous rappelez que durant des siècles, les prélats ou les prêcheurs des trois grandes religions monothéistes, la religion chrétienne, musulmane et, vous dites, dans une moindre mesure, juive, se sont employés à fournir aux esclavagistes l'argumentaire théologique et doctrinal censé non seulement justifier, mais même encourager la pratique de l'esclavage. Et vous le dites, il s'agissait de faire chorus pour flétrir au nom du Créateur l'irrespect des mécréants ou leur déchéance morale. Alors, il y a des travaux d'une historienne qui s'appelle Anna Barker, et je voudrais que vous nous en parliez un peu, parce que c'est assez intéressant de comprendre comment, en termes marxistes, on dirait la superstructure s'est mise à poser sur l'infrastructure économique.
Là encore, on sait bien que l'histoire de la papauté, puisqu'on parle des bulles, est assez tourmentée, et qu'elle a connu des épisodes peu glorieux au regard des valeurs christiques. Il y a là vraiment une alliance du sabre et du goupillon. C'est-à-dire qu'au fond, lorsque tel pape va donner le pouvoir à un roi qui part à la conquête de réduire et d'asservir tous les infidèles, donc il donne cette caution, je dirais quasiment théologique, mais on est dans une logique de puissance et d'influence, et non pas dans une logique de diffusion du verbe christique. Donc, ça, on le trouve. C'est vrai que la lecture des bulles papales, parfois, elle vous sidère, quoi, parce que tout ça est dit de manière extrêmement explicite. Il n'y a aucune inhibition. On lui dit, voilà, je te bénis, tu peux aller conquérir les terres des sauvages et les asservir à ta convenance et, le cas échéant, les éliminer s'ils résistent. Donc, ce qui est assez frappant là-dedans, c'est que pour quelqu'un comme moi qui suis de culture et de tradition catholique, mais plutôt, je suis plus près de Lamennais et de Marc Sangnier que des petits gris, il y a quelque chose d'assez renversant de voir le degré de complicité qu'il y a eu entre ce qui était censé incarner le pouvoir pontifical et des menées parfaitement temporelles. Et donc, alors, pour être équanime, je dis tout de suite, mais on les évoquera peut-être plus tard, que Dieu merci, c'est le moment de le dire, il y a eu des figures qui, contre la pensée dominante, ont très vite considéré qu'il fallait dire à haute voix que ces justificatifs piétinaient l'essence même des valeurs du christianisme. Vous évoquiez tout à l'heure la controverse de Valladolid. Hein, il y a un livre, et puis il y a eu ce téléfilm de Jean-Daniel Vérague, assez remarquable, avec des numéros d'acteurs phénoménaux, d'ailleurs. Mais
Jean-Pierre Mariel, Jean-Louis voilà. Trintignant.
Exactement. Mais il y a aussi
Carmé.
Un personnage dont on parle parfois, le fameux abbé Grégoire,
ouais.
Dont je cite presque in extenso.
Vous dites que c'est un drôle de paroissien. Hein.
Mais oui, parce que très franchement, c'est la raison pour laquelle je cite assez longuement une sorte de harangue qu'il donne à l'Assemblée constituante en 1789-90. Mais il faut savoir qu'à l'époque, il est considéré comme un dissident par l'Église catholique. Et pourtant, il va avoir le courage, puisqu'il va être à l'origine, avec d'autres, de la fondation, ce qu'on appelle la Société des Amis des Noirs. Et surtout, il dit avec une acuité assez troublante, encore une fois, cette sorte de trahison de l'essence du message du Christ par non seulement ceux qui font commerce des esclaves, mais ceux qui les cautionnent, y compris théologiquement. Et puis plus tard, je cite un autre personnage qui est le cardinal Charles Lavigerie, hein, donc qui va aussi beaucoup contribuer à ça. Mais il aura fallu du temps quand même pour que les religions monothéistes. Il y a d'ailleurs, au passage, il y a un aspect qui est très intéressant, c'est de voir que, par exemple, la fameuse malédiction de Cham. Vous la retrouvez dans les trois cultures. La malédiction de Cham, c'est Noé qui
parce qu'il a vu son père,
Noé s'enivre, etc. Et l'un de ses fils, l'aperçoit dans sa nudité. Il se réveille, il mesure l'infamie et il dit tu seras maudit, tu seras l'esclave des esclaves de tes frères. Et vous retrouvez Cham dans les trois religions. Donc ça c'est un phénomène intéressant. Et on retrouve au fond les mêmes ambivalences qu'avec les philosophes des Lumières. C'est-à-dire qu'à partir d'un socle qui semble pourtant solide, vous avez des accommodements avec les principes qui conduisent à des comportements qu'on peut juger indéfendables. Alors attention, on est toujours évidemment guetté par le péril de l'anachronisme, hein, jugé hier à l'aune des valeurs d'aujourd'hui. C'est une obsession permanente qu'on écrit ce genre de bouquin. Mais quand même, je veux dire, il y a des invariants dans le message chrétien qui me semble, moi, quelle que soit l'époque, parfaitement incompatible avec les pratiques que l'on dépeint ici.
Alors, puisqu'on est, on évoquait l'abbé Grégoire et la révolution de 1789, il faut qu'on dise quelques mots de la pensée des philosophes des Lumières, hein, puisque vous évoquez Kant et puis les autres. Hein. On est ici à Bordeaux, la ville de Montesquieu. Alors Montesquieu prend des risques quelque part hein, quand il écrit ce qu'il écrit sur le nécessaire affranchissement. Mais on sait aussi, alors pas Montesquieu, mais les ambiguïtés de Voltaire, à la fois dans ses écrits, mais dans ses intérêts économiques, on pourrait presque dire tout ça, ou entrepreneuriaux. Quel a été, selon vous, quand même, l'impact des Lumières dans le long processus abolitionniste?
Alors, même si je m'abstiens de sombrer dans une sorte de vénération homogène de ce siècle fameux et quasiment sacré, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que, quelles que soient leurs ambiguïtés, on y revient tout de suite, ces personnages ont fait bouger les lignes. Bon. Et notamment en quelque sorte désarmant le catalogue doctrinal qui visait à justifier la servitude. Mais on pouvait parfaitement, au siècle des Lumières, être un esprit ô combien éclairé, dénoncer avec une vigueur remarquable la traite, mais juger que l'esclavage était un mal nécessaire.
C'est ça.
Et c'est très souvent, d'ailleurs, l'argumentaire qui est employé. Alors, parfois, c'était pour des raisons économiques. Il fallait quand même veiller à la prospérité dans le contexte concurrentiel que j'évoquais tout à l'heure, entre grandes puissances. Il fallait veiller à ce que les intérêts supérieurs du royaume soient préservés. Donc, on dénonçait l'inhumanité, la barbarie, la férocité, la cruauté du traitement des esclaves, des châtiments qui leur étaient infligés, mais pas toujours au point de récuser l'institution esclavagiste elle-même. Mmh. En gros, dans certains des écrits, on a l'impression qu'on nous dit qu'il faut traiter nos esclaves, puisque certains d'entre eux en avaient, hein, mais avec bien davantage d'humanité, et faire le pari qu'on peut les élever dans la culture, la connaissance, etc. Donc mais là aussi, c'est pour ça que je parle très souvent du traquenard de l'anachronisme. C'est un peu comme quand vous faites basculer une statue de Victor Schœlcher. Alors là, on est dans l'anachronisme bête et brutal, quoi. Parce que oui, bien sûr, il a dû transiger pour que l'essentiel de l'abolition de 1848 passe. Bon, et notamment contourne tous les lobbies extrêmement puissants qui s'efforçaient de saborder l'effort qui était sien. Mais comme Abraham Lincoln lui-même a dû transiger et a dû en quelque sorte accepter d'aller moins vite qu'il ne l'aurait souhaité. Alors après, on dénonce les ambiguïtés, etc. Mais prenons un exemple encore plus récent. Au fond, la loi Taubira, dont on vient de célébrer le 25e anniversaire. Eh bien, quand on regarde l'histoire de cette loi, bon, qui donc reconnaît la France et le premier pays au monde à le faire, assimile donc la traite et l'esclavage à un crime contre l'humanité. Eh bien, on l'a oublié, mais à l'époque, la députée de Guyane, qui était Christiane Taubira, essaye de convaincre ses chers collègues députés de créer une sorte de commission qui aurait vocation à étudier les modalités éventuelles de réparation, par exemple. Bon, elle n'y arrive pas. Est-ce pour autant qu'elle va renoncer à faire passer cela ? Non. Donc, je veux dire, voilà, c'est là où il faut être un peu nuancé, un peu subtil. Et c'est pour ça que je ne jette pas l'eau des lumières avec le bain des philosophes. Donc, mais je dis, attention, ne sombrons pas non plus dans un simplisme vénérateur. Et ces gens-là ont eu les ambiguïtés de leur temps.
Est-ce que c'est le même débat qui est apparu sur la question du fameux cône noir ?
Oui, c'est passionnant.
Alors, avec les travaux de Jean-François Niort,
oui,
je crois,
oui.
Le professeur d'histoire du droit de l'université de Guadeloupe, qui a suscité une vraie polémique en reprenant le travail sur le Code noir, avec le débat est-ce que le Code noir a été une manière de réguler une sorte de liberté absolue, ou est-ce que ça a été ancré dans le marbre, si je puis dire, l'esclavage.
Et là c'est l'exemple, je dirais, parfait de la difficulté de porter un regard dépassionné sur ces enjeux-là. Alors, n'oublions pas que en 2025, l'éphémère Premier ministre François Bayrou préconise l'adoption d'une loi visant à l'abrogation formelle du Code noir. Bon. Et c'est un débat qui rebondit encore ces jours-ci. Alors d'abord, il faut dire les choses. Quand on regarde, là encore, les archives, le Code noir, il en existe plusieurs versions.
C'est ça.
On n'a jamais pu consulter la version originale qui n'a pas été conservée aux Archives nationales.
Alors, il faut rappeler que c'est 1865.
Oui, et j'ajoute, oui, absolument. Oui. Et j'ajoute un autre élément, c'est un édit royal, hein, le Code noir. D'ailleurs, officiellement, ça s'appelle l'édit royal sur la police des îles françaises. Bon. Eh bien, on l'attribue à Colbert. Ce Code noir.
1685.
Oui,
c'est ce que j'ai dit.
Oui, on a.
Oui, pardon.
1685. On l'attribue à Colbert. Le problème, c'est qu'il a été promulgué par Louis XIV 18 mois après la mort de Colbert. Et en réalité, c'est le fils de Colbert qui portait le même prénom. Qui... Donc déjà, sur la nature même du document, il y a des ombres et des incertitudes. Alors là où il n'y a pas d'ombre, il faut être clair, c'est que, par exemple, il y a une codification des châtiments infligés aux esclaves rebelles qui soulève le cœur. Hein, et tout ça est très codifié. Hein. La première fuite, on coupe l'oreille, la deuxième, la main, enfin, etc. Donc il ne s'agit pas du tout pour moi ici d'euphémiser l'extrême férocité de cet aspect des choses. Mais effectivement, la polémique, alors quand on va voir les archives de l'époque, mais c'était la guerre de Troie, entre donc Jean-François Niort, cet historien, et puis un philosophe qui s'appelait Louis Salah Molin, qui dit lui. Il s'agit du texte juridique le plus monstrueux qui n'ait jamais été produit. Et en face de ça, donc un Jean-François Niort, mais aussi un Marcel Dorigny, un autre historien reconnu de l'esclavage, dit « Mais bien sûr, mais en même temps, c'est la première tentative de codification qui, par exemple, enjoint aux propriétaires d'esclaves de nourrir décemment, de vêtir correctement, de respecter les dimanches, parce qu'il y a toujours évidemment cette dimension religieuse, etc. De ne pas imposer de mariage contre les... Donc c'est un mélange d'extrême brutalité et une tentative, pour la première fois, de régir ce qui ne l'avait jamais vraiment été.
Mais aussi cyniquement, de faire en sorte de protéger la force de travail, si je puis dire.
Bien sûr. Bien sûr, c'est là où, comme je dis tout à l'heure, les facteurs et les impératifs de géopolitique, d'économie, de commerce sont parfois vêtus de la toge du principe ou de l'idéologie.
Toujours dans le même ordre d'idées historiques, vous évoquez ce que vous appelez l'énigme Bonaparte.
Oui.
Parce qu'on en parlait tout à l'heure, hein, là, il s'est quand même passé quelque chose de tout à fait essentiel. C'est, je rappelle, la chronologie, 1794, c'est l'abolition, 1802, rétablissement, en particulier dans à Saint-Domingue, hein, enfin, oui. et aux Antilles. Vous avez eu un entretien avec Pierre-Yves Bocquet, qui est le directeur adjoint de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Il parle d'une cruauté inimaginable, en particulier dans dans l'opération du général Leclerc, le beau-frère de Napoléon, le mari de Pauline,
hein, oui,
qui intervient extrêmement violemment à Saint-Domingue. Et vous dites, Bocquet vous dit, au sein des élites françaises, persiste une méconnaissance de ce que fut l'impact réel du recul de 1802, qui aura aussi coûté à la France son impérium en Amérique. Ça, c'est très intéressant. Oui, oui. Vous parliez de géopolitique.
Oui.
Napoléon ne fait pas qu'une erreur, j'allais dire, entre guillemets, humaniste, enfin, anti-humaniste. Oui. Il fait une vraie erreur de géopolitique. Hein.
Oui.
Et Bocquet dit, quand on songe qu'un Éric Zemmour attribue à Napoléon le mérite de l'abolition. Bon, ça prouve que Zemmour n'a pas dit que des conneries sur Pétain. Il en a dit aussi.
Oui, il en a écrit aussi
sur Napoléon.
Oui,
comme
oui.
disait l'autre à propos d'une autre actrice, il en a écrit aussi. Bon, oui. Mais dites-nous ce qui se passe à Saint-Domingue. Le dossier est encore très actuel,
oui.
puisqu'il est question de réparation.
Mais je vais commencer par un chiffre absolument sidérant. Je couvrais pour l'Express les convulsions haïtiennes. Haïti, pays infiniment attachant, mais donc à cette aune-là terriblement désespérant. Et j'avais rencontré, lors de son exil washingtonien, Jean-Bertrand Aristide, donc, qui était le président, un ancien prêtre salésien défroqué, qui a été évincé par le général Raoul Cédras. Cédras, la plus longue interview de ma vie, 9h30. Oui. Je ferme la parenthèse et ensuite il revient, alors paradoxalement, dans les bagages des Américains et il retrouve sa présidence. Et donc, pendant la période de son exil à Washington, il me reçoit et il me livre ce chiffre-là. Alors, prenez votre souffle et moi le mien. 21 milliards 685 millions 135 571 dollars américains. Je pourrais vous épargner les cents, mais je ne le fais pas. 48 cents, c'est quoi cette somme astronomique et énigmatique? Eh bien, c'est en quelque sorte la contre-valeur à l'instant T des 150 millions de francs or qui sont extorqués à la toute jeune et fragile République d'Haïti, la première République noire de l'histoire, pour prix de la reconnaissance de son indépendance.
Alors là, on est plus tard, on est vers 1825, par là.
Voilà, alors maintenant, on rembobine un peu le film. On a beaucoup glosé sur ce qu'avait été le moteur de cette régression napoléonienne. Certains ont dit, mais c'est lié au fait que l'impératrice avait elle-même Joséphine. Des racines, des origines, etc. D'après Thierry Lenz, que je cite aussi, qui est l'un des experts les plus reconnus de l'ère napoléonienne, c'est pas ça qui prévaut. Ni un attachement personnel, viscéral de Napoléon à l'institution esclavagiste. C'est encore une fois un calcul, mais comme vous le disiez, un mauvais calcul. Parce que, d'abord, il confie cette tentative de conquête à des fous furieux, à des barbares. Et le beau-frère n'était pas le seul dans l'aventure. Ensuite, ce que l'on oublie souvent, c'est qu'à l'origine, le fameux Toussaint Louverture et lui entretiennent une correspondance très urbaine.
Vous dites, oui.
Toussaint Louverture est un officier général de l'armée française. Bon, et donc, il n'était pas fatal que les choses prennent cette tournure-là. Et donc, c'est vrai que, très travaillé aussi par le lobby des planteurs, et le lobby des colons, il finit par envoyer cette expédition, qui effectivement est catastrophique à deux titres. D'abord, elle se termine dans la malaria et la honte et la défaite, ce qui est quand même, pour l'Empire, est assez un camouflet assez cinglant. Mais c'est vrai qu'elle colore, et je viens d'en donner un exemple là, elle colore encore aujourd'hui la vision que plusieurs peuples caribéens ont de la France et de la France historique. Oui, ça c'est incontestable.
Alors, il faut qu'on avance. Moi, j'aime beaucoup les titres de vos différents chapitres. Il y en a un qui s'appelle « Les chaînes qu'on abroge ».
Oui.
Et ça, c'est un point très important parce que ça fait référence aux derniers travaux, j'allais dire, un peu de l'historiographie actuelle. Et d'ailleurs, ça renvoie aussi au discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire en 1950. Et vous le disiez tout à l'heure au début de notre entretien, ce qui est important aussi, c'est de souligner comment les esclaves eux-mêmes se sont affranchis par leur combat. Parce qu'on a tendance à considérer que l'abolition, c'est celle de bourgeois ayant blanc, européen, ayant mauvaise conscience.
Une liberté octroyée par le haut.
C'est ça, avec une vraie condescendance.
Voilà, absolument. Et d'ailleurs, c'est là où j'ai essayé de recourir le moins possible aux barbarismes académiques, mais la notion d'agentivité...
C'est ça, voilà. Je voudrais que vous en parliez.
À cette aptitude de l'individu, même confronté à une adversité extrême, à peser sur son sort. Et en fait, on s'aperçoit, par exemple, que dans une période donnée, ça a été étudié par un historien britannique, une traversée sur 10... donner lieu à une révolte. Alors, très souvent voué à l'échec. Le rapport de force était écrasant. Mais une traversée sur 10. C'est-à-dire que celui qui armait un bateau, alors évidemment, il souscrivait une assurance, etc., ça pouvait être la fortune ou la ruine, comme je l'explique à travers quelques exemples dans le chapitre en question. Et si vous voulez, c'est assez normal, au fond, qu'il y ait cette vision simpliste. Parce que qu'est-ce que véhicule, qu'est-ce que colporte la littérature ? Alors, la case de l'oncle Tom, c'est vraiment l'exemple quasiment caricatural, mais autant on emporte le vent, le cinéma aussi. Ça colporte l'idée d'un esclave nécessairement soumis, vaincu, résigné, et parfois, pourquoi s'arrêter en si mauvais chemin, satisfait de son sort. Donc c'est vrai qu'il aura fallu ce travail de fond de tas d'historiens qui montre, alors il y a mille façons de se rebeller. Je parlais des mutineries à bord des bateaux. Bon, très bien, mais il n'y a pas que ça. Il y a le suicide. Le suicide est une révolte. Vous avez des esclaves qui se jettent dans la mer à l'approche de ce qu'on appelle le passage du milieu, c'est-à-dire en fait le point de non-retour au milieu de l'océan. Vous avez aussi la rébellion qui va éclore sur place. Et vous avez des massacres, effectivement. Des esclaves se révoltent et massacrent les propriétaires, les colons, etc. Il y avait, j'évoquais tout à l'heure le marronnage, la création de ces maquis, qui parfois vont combattre les forces dites de l'ordre pendant des mois, voire des années. Donc, en fait, c'est ça qui est ce que l'on doit vraiment à toutes ces générations d'historiens, c'est à montrer que non, l'esclave n'est pas soumis, l'esclave n'est pas résigné, même s'il sait que ses chances de succès sont infimes.
Alors, on est à Bordeaux, vous consacrez toute une partie de votre ouvrage à ce que vous appelez les trois bastions portuaires français, Bordeaux, Nantes, Bordeaux et Le Havre, qui méritent, dites-vous, une escale en matière d'enrichissement du fait de la traite et du commerce. Bon, alors, je donne quelques chiffres hein, que vous citez. 419 expéditions maritimes entre 1672 et 1837 au départ de Bordeaux, soit le quart du total atteint par Nantes.
Absolument.
Et 10 fois moins que Liverpool.
Hein. On évoquait tout à l'heure.
Vous dites, mais en même temps, Bordeaux connaît un boom économique considérable au XVIIIe siècle. La population dépasse les 100 000 habitants. Et vous dites, on recense 4 000 Noirs. Et dans cette période, les armateurs bordelais ont déporté entre 130 000 et 150 000 captifs africains. Alors, vous citez quelqu'un qu'on a bien connu à Bordeaux, qui a été après, au moins pour un mandat, maire de Roquefort, dans les Landes, c'est François Hubert, qui a dirigé le musée d'Aquitaine. Et grâce à lui, mais aussi, c'était une volonté politique, hein, qui a ouvert des salles consacrées à la question de ce qui était jusqu'alors un tabou absolu à Bordeaux. Il dit « La région vivait moins de la traite stricto sensu que des produits de l'esclavage, ce qui, moralement, ne vaut guère mieux. »
Oui, je me souviens très bien, parce qu'en fait...
ça, c'est dans le numéro spécial que vous avez coordonné. Là.
Oui, parce que, en fait, en 2015, on me confie la réalisation, donc on me demande de sortir de mon couloir de nage habituel, c'est-à-dire le reportage international, pour consacrer, c'était un devoir que chacun d'entre nous devait accomplir au sein de la rédaction, un hors-série, un spécial qui s'appelle assez banalement Bordeaux l'Africaine, qui est en fait un numéro spécial hors-série qui est consacré aux relations sous toutes les coutures de Bordeaux, de l'ex-Bourdigala avec le continent africain. Et c'est vrai que je me plonge à ce moment-là dans les écrits, je visite les quatre salles du musée d'Aquitaine qui sont consacrés, et je rencontre donc celui qui, à l'époque, en est un peu la cheville ouvrière hein, et l'animateur, et il me dit ça. Mais ce qui est incontestable, c'est que au XVIIIe siècle, c'est clairement aux échanges transatlantiques que la ville doit sa prospérité, même si au palmarès de l'infamie, jugement d'aujourd'hui, elle est très loin derrière les Anglaises et puis Nantes. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que il y a une stratégie symétrique de Bordeaux et de Nantes. Bordeaux commence par ce qu'on appelle le commerce triangulaire et ensuite se spécialise dans le commerce en droiture, donc direct de nos côtes au Nouveau Monde, alors que Nantes fait l'évolution inverse. Nantes commence par le commerce en droiture et ensuite se spécialise dans le commerce triangulaire, donc qui passe par l'Afrique et la récupération donc de captifs qui sont convoyés ensuite jusqu'aux Amériques. Mais ce qui est aussi passionnant, c'est que, pour en avoir discuté avec des historiens de la région, il a fallu du temps pour que Bordeaux regarde son passé en face. Et c'est à cette occasion-là, d'ailleurs, que je fais la connaissance d'un personnage que vous avez sans doute croisé ou dont vous avez entendu parler, qui s'appelle Karfa Diallo, un franco-sénégalais, donc l'un des animateurs de l'association Mémoire et Partage, et qui va lancer des déambulations dans les rues de Bordeaux pour visiter en quelque sorte les vestiges de cette prospérité liée à l'esclavage. Alors ça peut être un mascaron, vous savez, ces effigies sculptées aux traits clairement négroïdes qu'on trouve aux angles de certaines possessions assez cossues. Mais il y a la fresque du plafond du Grand Théâtre. Quand on la regarde de près, cette fresque, bien, il y a une représentation allégorique de la richesse et de la prospérité, une sorte de déesse. À ses pieds, vous avez deux esclaves entravés et l'échine courbée. Et donc, il conduit comme ça. Et j'ai assisté à une de ces déambulations. Il y avait à la fois des gens du coin, et puis il y avait des touristes américains de passage, et puis il y avait des Allemands, etc. etc. Et donc c'est vrai que c'est pas simple. Moi, je me souviens de l'époque où il y avait eu un débat ici, vous me corrigez si je m'égare, sur le nom qu'il fallait donner au nouveau pont de Bordeaux, qui s'appelle, je crois, le pont Jacques Chabandel. Eh bien, il me semble que le maire de l'époque, qui devait s'appeler Vincent Feltès...
Il était président de la communauté urbaine.
Lui souhaitait qu'on baptise le musée Toussaint L'Ouverture.
Voilà. Le pont Toussaint L'Ouverture.
Voilà, il n'a pas eu le cut, mais il y a eu des... Je me souviens de l'époque où, alors je ne sais pas si c'est toujours vrai, il y avait un buste de Toussaint Louverture, oui, mais un peu excentré sur la rive droite, le quai des Quéris, c'est ça. Exactement. Et puis bon.
Le travail qu'a fait Carfa Diallo est tout à fait passionnant, oui. Parce que il continue d'ailleurs, hein,
oui.
Il continue, y compris de manière très symbolique. Hein, il a porté le j'allais dire le fer juridique à propos d'un quartier de Bayonne, je crois, où, qui s'appelle la Négresse. Hein.
C'est pas Biarritz.
Biarritz, pardon.
Oui. Oh là là.
Grossière erreur de Biarritz sur la Négresse. Alors, on va terminer sur la question des réparations, parce oui. que ça fait référence à un universitaire franco-sénégalais, professeur à l'université de Bordeaux, à la faculté de droit, Badou Fall. Le professeur Fall dit ceci à propos des réparations. Il dit symboliquement. La revendication est légitime. S'il dit ça, il vous le dit ça en 2015. Elle est donc recevable. Juridiquement, c'est pas si simple. À qui imputer aujourd'hui les dommages infligés hier? Comment apprécier les dimensions matérielles, morales, psychologiques? Et vous savez que, par exemple, un certain nombre d'universités, de la fameuse Ivy League, oui. la Ligue du Lierre, hein, sur la Nouvelle-Angleterre, la côte est américaine, dont Harvard, sont rentrées dans cette logique-là. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, ça, c'est vraiment une question vertigineuse. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé ce chapitre « Réparer l'irréparable
oui, ?»
Point d'interrogation. Je vais dire en peu de mots la conviction que je me suis forgée après avoir travaillé sur ce sujet. L'idée qui consiste à dire que tout descendant d'esclaves devrait être, en quelque sorte, destinataire d'une rente à hauteur à déterminer, au prétexte que précisément il est l'héritier de cette histoire-là, dont je serai le dernier à contester la cruauté et l'injustice, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, pas plus que l'on est en quelque sorte comptable de l'héroïsme de ses ancêtres, on l'est de souffrances dont on n'est que l'héritier symbolique. Bon, donc je pense que là, il faut être très clair là-dessus. En revanche, là où il faut être aussi limpide, c'est d'abord, et je reviens à mon obsession de regarder l'histoire d'en face, c'est-à-dire de dire la vérité. Et c'est vrai qu'on peut trouver ça un peu romanesque, mais le fait de présenter des excuses, ce qui a été fait par divers souverains, chefs d'État, etc., n'est pas du tout anodin. C'est une forme de réparation symbolique. Et pour ne pas rester simplement dans le domaine du symbole, quand on peut déterminer, je dirais d'une manière très rigoureuse, que tel pays, telle communauté paye aujourd'hui les arriérés, je pense, j'ai allusion tout à l'heure au cas d'Haïti, qu'il doit donc bénéficier d'une aide soutenue, cohérente, rigoureuse, ça me paraît incontestable. Sinon, si on s'abstrait de cette sorte de devoir moral, alors on va justement alimenter un maximalisme qui fait que on fait basculer les statuts de Schœlcher et voilà. Et au passage, bon, c'est quelque chose qui est quand même étrange, c'est-à-dire que dans cette radicalité dont on peut comprendre les ressorts, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Mais pourquoi ne pas débaptiser les 642 collèges, lycées, écoles Jules Ferry en France? Quand vous regardez l'échange entre Jules Ferry et Georges Clemenceau sur les peuples inférieurs,
que vous citez,
bon, bah oui, bon, et puis le palais Bourbon, mais ça renvoie pas à quelque chose
jusqu'à l'Élysée qui a été construit par Crésus Crosa,
ouais, le fameux Antoine
le banquier, Crosa, le banquier de Louis XIV,
oui,
qui était un esclavagiste total.
Oui. Je rappelle cette anecdote, on le sait trop peu, mais l'Élysée, effectivement, a été construit à partir de l'argent d'esclavage du fameux aventurier
Crosa,
qui n'était pas un parangon de vertu, qui s'appelait Antoine Crosa,
dont le père avait été capitoule de Toulouse,
absolument. Oui.
On va terminer cette fois-ci pour de vrai sur la dimension actuelle et contemporaine de l'esclavage. Ça, c'est votre dernier chapitre. On a dit tout à l'heure, on évoque le chiffre de 25 à 50 millions d'esclaves dans le monde à la fin du premier quart du 21e siècle. L'ONU et l'OIT, l'Organisation internationale du travail, parlent même de 200 millions d'humains, majoritairement des femmes, j'insiste là-dessus, astreint à la servitude, au labeur forcé et au mariage contraint. Et on pourrait parler des petites filles, là.
Les yézidis, par exemple.
Voilà, bien sûr, et dans cette dimension. Quelles sont les formes les plus emblématiques de l'esclavage contemporain aujourd'hui?
Alors, on a, j'ai commencé par ce qui est le moins visible, c'est la perpétuation d'un esclavage domestique. Je prends un exemple très simple. Vous avez une jeune Philippine, par exemple, ou Sri Lankaise, à qui on promet monts et merveilles si elle consent à aller travailler chez un diplomate qatari. Je cite pas ça d'une manière fortuite. Pense à des cas qui sont aujourd'hui en justice.
Que vous évoquez, oui.
Et elle arrive, on lui confisque son passeport, on la fait bosser 18 heures par jour, on ne la paye pas, on la nourrit mal. Elle est évidemment exposée aux convoitises charnelles du patron ou du fils du patron, ou des amis, etc., etc. Des gens m'ont fait le reproche de dire « Oui, mais non, mais on peut pas parler d'esclavage, etc. etc. » Je suis désolé, si on s'en tient à la définition pure et parfaite de l'esclavage, cette réduction en servitude avec l'impossibilité totale de se libérer, de recouvrer son libre arbitre, sa capacité de bouger, etc., c'est de l'esclavage moderne. Alors là j'ai pris à l'échelon micro. Maintenant, je vais prendre un autre exemple archétypal, plus ample. Vous avez aujourd'hui, et là aussi je cite quelques exemples, des usines à cyberfraude aux confins de la Birmanie, de la Chine, par exemple. Bon, et bien, et de la Thaïlande. Eh bien, vous avez là parfois des centaines de jeunes qui ont été attirés par la promesse d'un salaire attrayant au regard des normes locales et qui en fait sont astreints à alimenter des réseaux de cyberfraude. Alors ça peut être une fraude au Bitcoin, ça peut être une fraude sentimentale, ça peut être toutes sortes et qui sont dans l'hypothèse où ils ne seraient pas suffisamment performants, qui peuvent être battus, frappés et certains tués par les Cerbères qui régentent ces usines à fraude. Et là encore, si on tient aux critères simples, ils n'ont pas la liberté de partir et ils n'ont pas de papier d'identité qui leur a été confisqué. Ils gagnent ce que l'on consent à leur donner et s'ils tentent de se révolter, ils s'exposent à une mort brutale. C'est une forme nouvelle d'esclavage. Et vous aviez mille fois raison d'évoquer le cas notamment des fillettes yézidis. Je cite des exemples qui sont absolument renversants et sur une bourse aux filles yézidis, où l'un d'entre eux, je ne citerai que celle-là, c'est peut-être la plus vénielle de toutes, proposait d'échanger une jeune fille yézidi contre une paire de chaussures de sport et de chaussettes assorties. Donc là, il y a une sorte d'outrance dans l'avilissement de l'être humain qui, évidemment, révulse. Et je, pour avoir un conflit sur lequel j'ai travaillé plus récemment, qui est le Soudan, la réduction en esclavage par d'ailleurs les deux forces, les forces dites gouvernementales de Al-Burhan et puis les milices de son ancien allié dit Emeti, pratique la mise en servitude. Alors on peut faire un porteur, on peut faire une cuisinière, on peut faire esclave sexuel, parce que la dimension sexuelle, elle est toujours là. Elle est toujours là dans l'esclavage. Elle l'est dans un extrait que je cite où un capitaine de navire, j'ai trouvé ça d'ailleurs dans les archives du musée d'Aquitaine, consigne pieusement, si j'ose dire, le nombre de fois où il a exploité, j'emploie son terme, hein, c'est rédigé ainsi, où il a exploité telle jeune négresse de 13 ou 14 ans. Bon, donc on a la dimension de l'asservissement sexuel est consubstantielle à l'esclavage.
Eh bien, merci beaucoup, cher Vincent Hugeux. Je rappelle merci. Le livre et on peut vous applaudir. Merci.